voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle le thème de notre débat de ce soir. Nous parlons du passeport vaccinal. Est-il prématuré de l'envisager ici en France ? Mais d'abord, notre invité.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et il est à Cotonou, au Bénin, Nathanaël Coty. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes président du Parti pour l'engagement et la relève au Bénin. Vous contestez des propos tenus le week-end dernier par le ministre porte-parole du gouvernement béninois, Alain Orola, dans l'émission Le Débat BBC Afrique, Africa Radio, diffusée par Africa Radio et la BBC. Il a déclaré, M. Coty, à propos de votre parti, que le père n'avait pas suivi la bonne démarche pour obtenir les parrainages nécessaires à la validation de votre candidature à la présidentielle du 11 avril prochain au Bénin. Pourquoi dites-vous que ces déclarations sont inexactes ?
Alors, merci, madame. J'ai suivi avec une attention particulière les propos du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Alain Orola, sur sa restitution des démarches effectuées par notre parti politique, le Parti pour l'engagement et la relève, pour l'obtention des parrainages dans le cadre de l'élection présidentielle. J'avoue qu'il y a eu des contre-vérités dans les propos du ministre de la Communication. Et c'est peut-être par décence, sinon je parlerai de mensonges. C'est de la provocation pure et simple.
Quelles sont ces contre-vérités ?
C'est choquant lorsque de tels propos proviennent du ministre porte-parole d'un gouvernement de 23 ministres. Je voulais rectifier en soulignant que le Parti pour l'engagement et la relève a mené la bonne démarche et vous le comprendrez. En effet, vous savez bien que l'Assemblée nationale regorge de 83 députés, tous de la mouvance, et 111 maires sur les 117, tous également de la mouvance. Et donc, conformément à l'esprit de la réforme du système partisan, nous avions approché près d'une cinquantaine de députés et de maires. Et tous nous ont donné leur principe d'accord pour pouvoir nous accompagner dans le cadre du parrainage. Et ce sont eux-mêmes qui nous ont conseillé de bien vouloir saisir les instances de leur parti politique pour les mettre au parfum des démarches que nous étions en train de mener. Et donc, nous dire aujourd'hui que nous n'avons pas pu faire la bonne démarche, c'est un mensonge. Vous imaginez, madame, le Parti pour l'engagement et la relève n'a jamais envoyé un courrier par voie d'huissier, ni à l'UP, ni au Bloc républicain, comme l'a dit M. le ministre. Nous avons saisi par courrier administratif les deux blocs et nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président Amoussou Bruno, qui patronne l'Union progressiste, Mathurin, le président Mathurin Nago, le président Izzy Konaole, le ministre Dassigli. Ils nous ont tous reçus et ils ont félicité le parti pour l'engagement et la relève qui a respecté, pour avoir respecté de bout en bout la réforme du système partisan et qui ne trouvait pas d'inconvénient à nous parrainer. Et voilà exactement ce qui s'est passé.
Donc vous dites que si vous avez envoyé le courrier, c'est à la demande des députés de la majorité et que vous aviez rencontré préalablement.
Bien sûr que oui, madame. On a rencontré les députés.
D'accord. Dans ce cas, quel est donc l'intérêt qu'aurait le ministre de travestir la réalité, celle que vous décrivez ?
Alors, madame, on ne sait pas, je ne sais pas, peut-être, je suis sûr. Je suis sûr qu'il méconnaît tout ce que le Parti pour l'engagement et la relève a fait pour pouvoir faire, dans le cadre de la demande de parrainage, ou tout simplement, il aurait été surpris par cette question, c'est tout. Sinon, je ne sais pas l'intérêt qu'il a à dire autre chose que ce que nous avons fait. Ce que je vous dis, c'est la pure vérité. Les courriers existent, les contacts sont là.
Parce qu'il a expliqué que c'est faute d'avoir sollicité les parrainages et que le président Patrice Talon s'est retrouvé avec 118 parrainages sur les 159.
Madame, je vous dis tout simplement que le ministre Orola n'a pas dit ce qui s'est passé. Nous avions fait toutes les démarches, on a rencontré les élus. Et je le répète, c'est les élus eux-mêmes qui nous ont dit, c'est vrai, votre démarche, elle est louable, elle est très bien, mais nous voudrions que vous saisissez nos instances suprêmes pour prouver que nous sommes en pourparlers.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, alors ?
Alors, ensuite, on ne sait plus ce qui s'est passé. Les députés qu'on a rencontrés nous ont dit, ils vont vous appeler de nos instances pour que vous ayez le parrainage. On a attendu le parrainage en vain. Ils nous ont rappelé pour nous demander si éventuellement on ne nous avait pas appelé. On a dit non, qu'on n'avait pas encore reçu de coup de fil.
Et vous avez déposé votre dossier de candidature sans parrainage?
Bien sûr, tout était à jour. On a payé les 50 millions de cotisations.
D'accord. Sans parrainage, vous convenez avec moi que votre dossier était incomplet. De toute façon, il y a eu sur la vingtaine de dossiers déclarés, 3 qui ont été retenus, 3 duos. Et ce duo-là a été confirmé par la Cour constitutionnelle qui a publié ce lundi la liste définitive des candidats à la présidentielle du 11 avril prochain dans votre pays, le Bénin. Que reste-t-il à l'opposition pour se faire entendre?
Madame, je voudrais rappeler que le dossier, la pièce qui nous manquait dans nos dossiers était le parrainage détenu par la mouvance présidentielle. Donc ce n'était pas de notre fait. Le président de la République a promis au peuple béninois que les élections seront faites, inclusives pour les présidentielles.
Ce n'est pas le cas et le dossier semble vidé puisque, je vous disais, la Cour constitutionnelle a publié la liste définitive. En deux mots, M. Coty, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Que peut faire l'opposition béninoise aujourd'hui?
Alors, madame, il n'est jamais trop tard de bien faire. Je pense que tous les regards sont tournés vers le président de la République. Parce que je dis, la Cour constitutionnelle a manqué une très belle occasion de se racheter. Elle aurait pu elle aurait pu dire le droit. Et aujourd'hui, nous tous, nous serons en train de louer notre démocratie. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Tous les regards sont tournés vers le président de la République, qui est le premier magistrat et le père de la nation. Nous lui demandons tout simplement de ramener la balle à terre, de nous appeler, de discuter avec nous, de faire en sorte que l'élection, pour une fois depuis 2016, que l'élection présidentielle de 2021 soit une élection inclusive, festive, comme il a promis.
Merci.
Pour que nous puissions ne jamais oublier cette période dure. Qu'on est en train de traverser, mais en bien. Voilà.
Merci beaucoup, Nathanaël Coty, président du Parti pour l'engagement et la relève PER au Bénin.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Le passeport vaccinal est-il envisageable en France? Nous en débattons ce soir avec Yahya Zoubi, professeur de relations internationales et de management international. Monsieur Zoubi, bonsoir.
Madame.
Bonsoir Christophe Prudhomme.
Bonsoir.
Vous êtes médecin urgentiste et porte-parole de la MUF, c'est l'association des médecins urgentistes de France à Paris. Merci d'être avec nous. Et en ligne de Libreville au Gabon, Harold Leka. Bonsoir Harold.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et directeur de la publication de Gabon Media Time, donc à Libreville. Et nous allons commencer avec le médecin urgentiste Christophe Prudhomme. Les consultations sont donc ouvertes depuis la semaine dernière pour demander l'avis des Français sur ce passeport vaccinal. Pour vous, c'est une bonne démarche entreprise par les autorités françaises?
Non, je pense pas du tout. C'est un petit peu le chiffon rouge qui est agité pour masquer le problème actuel qui est celui de la disponibilité des vaccins. Nous n'avons pas suffisamment de vaccins aujourd'hui alors que nous rendons compte que ce virus mute et qu'il sera sûrement imposé une vaccination annuelle avec un vaccin qu'il faudra faire évoluer comme celui de la grippe traditionnelle pour qu'il puisse suivre l'évolution du virus. Donc le problème aujourd'hui n'est pas de discuter du passeport vaccinal. Le problème pour assurer la sécurité des populations, c'est de vacciner massivement l'ensemble des populations de la planète. Et aujourd'hui, nous avons un vrai problème qui est que nous laissons les laboratoires pharmaceutiques libres de leur choix alors qu'il faudrait utiliser le dispositif de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appelle la licence d'office, comme ça avait été fait pour les médicaments contre le sida, et réquisitionner l'ensemble des entreprises qui sont en capacité de produire ce vaccin. Le passeport vaccinal n'est qu'un leurre aujourd'hui et ce n'est pas ça la priorité en termes de santé publique.
Pourquoi le gouvernement l'impose-t-il alors dans l'agenda du débat en ce moment, du débat sur la COVID-19?
Ben justement, comme je vous le dis, c'est un leurre pour éviter le débat sur une volonté des populations qui monte aujourd'hui de dire maintenant ça suffit, Pfizer, Sanofi, GSK, AstraZeneca, c'est très bien, vous avez été en capacité grâce aux subventions qui vous ont été octroyées par les gouvernements de mettre au point des vaccins, mais aujourd'hui vous êtes dans une situation d'incurie totale au niveau de l'organisation de la production des vaccins qui sont réservés à certains pays. Or, le virus ne connaît pas de frontières. Si on ne vaccine pas massivement tous les pays et tous les continents, nous allons vers une période qui va être prolongée de circulation du virus et on ne pourra pas imposer des confinements régulièrement pendant 2, 3, 4 ou 5 ans. Ce n'est pas possible. Donc c'est le chiffon rouge qui est agité pour qu'on ne se préoccupe pas du vrai débat. Le vrai débat aujourd'hui, lié à cette épidémie, c'est la capacité des systèmes de santé de pouvoir traiter les malades et deuxièmement, la capacité à pouvoir produire massivement des vaccins efficaces pour l'ensemble des citoyens de la planète.
Merci. Monsieur Yaré Azoubi, c'est également votre avis que le gouvernement passe à côté de l'enjeu actuel ?
Absolument. Je suis d'accord avec le docteur. Le débat ne devrait pas tourner autour de du passeport du vaccin, puisque on n'arrive pas à vacciner toute la population et le processus qui se déroule à l'heure actuelle est vraiment assez lent. Et ce n'est pas qu'en France. Hein. Il faut dire honnêtement que c'est un peu partout. Mais de mettre le débat autour de cette question du passeport, je crois que c'est un peu trop tôt et c'est d'éviter, justement, comme l'a dit le docteur, éviter le débat essentiel, comment accélérer la vaccination de la population. Et on ne parle pas uniquement de la population dans les pays du Nord, il faut peut-être, je ne sais pas si vous avez ça pour notre débat, mais dans les autres pays qui ne peuvent
notamment
pas...
Notamment l'Afrique, la région d'Afrique qui réclame les vaccins. Mais déjà, avant de parler de l'Afrique, le docteur Prudhomme disait tout à l'heure qu'en France, il y a déjà aussi l'insuffisance de ces vaccins. Mais de plus en plus, on parle de production des vaccins Pfizer et d'autres peut-être sur le sol français.
Oui, c'est ce qui se dit. Pour le moment, je crois que ça vient de Belgique et d'autres endroits, mais dans les faits, je ne l'ai pas vu.
D'accord.
Ce n'est pas encore le cas.
Oui, il y a des usines, en tout cas, je peux certifier qu'il y a une usine qui est en train d'être construite par un groupe pharmaceutique pour pouvoir produire ces vaccins ici. Mais sur le fait que, M. Zoubi, vous disiez que la France semble imposer peut-être un débat prématuré, hein, que le débat est prématuré sur le passeport vaccinal. Mais est-ce que la France ne subit pas un peu la pression des pays, de certains pays voisins qui ont commencé à en parler de manière insistante? On se rappelle un peu de ce qui se passe au Danemark. Ou peut-être même en Estonie, qui commence à en parler avec le soutien de l'OMS.
Oui, mais les autres pays, maintenant, se sont tournés, même des pays européens, se sont tournés vers la Chine. Je parle notamment de la Hongrie, par exemple, qui a commencé à importer des vaccins chinois, ou bien, je crois, la Serbie
russe,
aussi.
Russe, le Sputnik V.
Voilà, russe et chinois. La Hongrie, je crois bien que c'est chinois. Mais ça commence à circuler un peu partout, même si, pour le cas des Chinois, il n'y a pas encore une vaccination massive en Chine. Donc, il y a un problème, je pense, au niveau planétaire sur cette vaccination. Et encore une fois, parler du passeport avant de faire une vaccination massive et que tout le monde puisse avoir ce vaccin, c'est prématuré à mon avis.
Merci. Harold Leka, vous n'allez pas forcément vous exprimer peut-être sur le passeport vaccinal. Ce n'est pas le débat dans votre pays, le Gabon, qui est un pays africain. Mais le débat au Gabon ressemble un peu aux problématiques qu'il y a autour de cette question de passeport vaccinal. Pourquoi ? Parce qu'il y a le gouvernement qui a demandé aux restaurateurs d'exiger un test Covid négatif à leurs clients. Les restaurateurs sont vent debout contre cette mesure et la conséquence, eh bien, c'est que tous les clients ont quasiment déserté les restaurants.
Bon, Il faut dire qu'en fait, tous les restaurants de la place à Libreville actuellement sont fermés, à l'exception de quelques-uns qui font des livraisons. Et donc, c'est une situation que les restaurateurs vivent très mal. Et d'ailleurs, il y a même un malaise qui s'est généralisé et qui a débuté le 17 février dernier par un mouvement de contestation, dit le mouvement de casserole. Donc, depuis le 17 février, tous les soirs, à 20h, des Gabonais, en fait, se mettent sur leur terrasse, dans leur cour, avec une casserole et une louche, et ils font du bruit pendant 5 minutes. Et ces bruits ont
déjà l'exigence du test Covid fait problème. Alors, si on arrivait au passeport vaccinal, ça pourrait être plus compliqué.
Justement, le problème au Gabon, au niveau du test, c'était justement qu'il était payant, 5 000 francs pour le test simple, et je pense que le test VIP était à 20 000 francs. Et justement, au lendemain de ces manifestations-là, le gouvernement, en réponse certainement à la levée de boucliers des populations, a décidé de revenir au test.
De suspendre cette mesure.
Voilà,
parce que les Gabonais n'étaient pas prêts à payer 5 000 francs pour avoir un test Covid et pour qui leur permettrait d'aller enfin manger dans un restaurant.
Non, mais au-delà même des clients, il y a aussi le personnel qui devait être testé une fois toutes les semaines. Donc à 5 000 francs le test, lorsqu'on a une dizaine d'employés, ben ça fait 50 000 francs par semaine. Alors que derrière, on a les clients aussi qui doivent se faire tester pour rentrer, et donc on a une clientèle qui est réduite, et c'est clair que les restaurateurs, des retours qu'on a avec les quelques-uns avec qui on a pu échanger, ils se plaignent justement de ce que leur activité a déjà beaucoup souffert des mesures de riposte contre la Covid-19, et que ce test qu'on vient obliger
Merci beaucoup. Christophe Prudhomme, vous êtes là, vous m'entendez?
Oui, je vous entends toujours.
Et vous, les médecins, quand vous voyez le gouvernement qui n'arrive pas à réagir, selon vous, rapidement face à l'insuffisance des vaccins, mais qui parle de passeport vaccinal, vous vous dites quoi? Vous vous dites que c'est peut-être une stratégie pour le gouvernement d'anticipation et qui lui permettrait d'être prêt, une fois que tout le monde sera vacciné, à mettre en application cette mesure peut-être?
Non, ça n'a aucun intérêt, cette mesure. La question, c'est de vacciner tout le monde. Une fois que tout le monde sera vacciné, on n'a pas besoin de passeport vaccinal. C'est comme exiger un test PCR pour aller au restaurant. Écoutez, ce n'est pas sérieux. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de respecter un minimum de gestes barrières pour limiter les contaminations et surtout dépister et isoler les personnes qui sont porteuses du virus.
Excusez-moi, monsieur Prudhomme, je disais que peut-être le gouvernement à qui on reproche d'avoir eu du retard sur les masques, d'avoir eu du retard sur les vaccinations, veut aujourd'hui corriger ses reproches en disant « Oui, nous on fait les consultations en ligne, on a la position des Français, une fois que tout le monde sera vacciné, eh bien on passe directement à l'application de cette mesure de passeport vaccinal. »
Non, mais le passeport vaccinal pour faire quoi? Vous voyez qu'un certain nombre de pays ont pris des mesures sur les voyageurs, en particulier dans les aéroports, avec des restrictions qui sont qui limitent l'entrée dans le pays. Le passeport vaccinal n'apportera pas de garantie. Vous savez, en situation de crise et en situation de pénurie de vaccins, le passeport vaccinal, ça s'achète. Qui est-ce qui va garantir que ce passeport vaccinal correspond effectivement à la vaccination de la personne qui le porte? Moi, je n'ai aucune garantie. Ce n'est pas sérieux. Vous savez bien qu'aujourd'hui, même en France, aujourd'hui, nous protestons parce que face à la pénurie de vaccins, il y a un certain nombre de gens qui possèdent à la fois l'équipement socio-économique et l'équipement socio-culturel, mais qui profitent, qui essayent d'avoir des passe-droits pour se faire vacciner. Donc vous comprenez bien que le problème actuel n'est pas d'instaurer un passeport qui n'apportera aucune garantie. La solution aujourd'hui pour reprendre une vie normale et assurer la sécurité de la population, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est... Il faut que l'ensemble des forces citoyennes du monde exigent de la part des grands groupes pharmaceutiques...
Pardon de vous interrompre, monsieur Prudhomme, on vous revient.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Depuis la semaine dernière, les Français sont invités à donner leur avis en ligne sur le passeport vaccinal qui fait débat et qui divise en France. Et nous en parlons ce soir avec nos invités, Yahya Zoubi, professeur de relations internationales et de management international et directeur de recherche en géopolitique à KH Business School, Harold Leka, directeur de la publication de Gabon Media Time à Libreville au Gabon, et le docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France à Paris. Nous vous avons interrompu tout à l'heure, docteur Prudhomme. Vous disiez que, de toute façon, les vaccinations qui sont faites aujourd'hui ne garantissent rien du tout. Raison de plus, d'après vous, de ne pas imposer ce passeport vaccinal pour le moment.
Non, ce passeport vaccinal ne sert à rien et n'apporte aucune garantie, je vous le dis, dans une situation de crise comme celle qu'on connaît avec une pénurie de vaccins. Ces passeports vaccinaux seront achetés et nous n'aurons aucune garantie que les gens qui présentent ce passeport aient effectivement été vaccinés. La problématique actuelle n'est pas de se tromper de débat. Il y a une urgence planétaire, de mettre au pas les laboratoires pharmaceutiques, d'imposer qu'il y ait ce qu'on appelle une licence d'office, c'est-à-dire que les droits des brevets tombent et qu'on puisse produire des vaccins de manière massive pour vacciner l'ensemble de la planète, que ce soit les pays du Nord, les pays du Sud. Vous voyez, moi je suis horrifié par l'attitude de certains pays comme aujourd'hui Israël, qui vaccine sa population
presque à 50%.
Qui refuse de vacciner les Palestiniens. Or, quand on vit sur un espace aussi limité, vous savez, c'est pas parce qu'il y a un mur de béton qui sépare la Cisjordanie de l'État d'Israël que ça empêchera le virus de passer. Et c'est la même chose entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc aujourd'hui, on a un véritable problème, c'est le manque de vaccins pour l'ensemble des populations. Et donc, il y a nécessité à ce qu'on mette au pas l'industrie pharmaceutique pour changer réellement le rythme de production de vaccins très rapidement.
Merci beaucoup. Monsieur Yahya Zoubi, le docteur Prudhomme a relevé un certain nombre d'aspects dans son intervention. L'injustice face au vaccin, il a parlé du cas des Palestiniens ou des Arabes en Israël. Mais aujourd'hui, même si on arrivait à se mettre d'accord au niveau international pour ce passeport vaccinal, comment envisagez-vous son application, son contrôle ? Étant donné que tous les pays ne vont pas au même rythme.
L'idée même du passeport crée l'injustice, parce que certains pourront se permettre d'avoir ce vaccin, d'autres ne l'ont pas. On a politisé ce processus de vaccination depuis un moment. Maintenant, ça devient une sorte de concurrence entre certains États. Voyez, par rapport à l'OMS, avec le COVAX et le Gavi, on attend que tel fasse ça pour que l'autre fasse ça, ou il y a des promesses des uns et des autres.
C'est vrai qu'il y a une vraie bataille entre Européens, Américains et Russes
et Chinois,
d'une part,
et Chinois
voilà, et Russes de l'autre.
Voilà. Maintenant, il y a, c'est pas pour les flatter, il y a certains pays maintenant qui vont produire le vaccin chez eux, c'est-à-dire des pays du Sud. Que, par exemple, l'Égypte va produire le Sinopharm chez eux, et il y en a d'autres. Les Algériens vont produire le Spoutnik chez eux, mais ça va prendre du temps. Alors, exiger un passeport maintenant, c'est ridicule, c'est franchement ridicule, et ça va encore aggraver les injustices, ces différences socio-économiques, etc. Donc, vous avez le fossé entre le Nord et le Sud qui s'aggrave, et même au sein des sociétés, que ce soit celles du Nord que du Sud, vous allez avoir cette aggravation. Et en plus, comme l'a dit le docteur Prudhomme, vous voyez ce qui s'est passé en Palestine, c'est abominable quand vous vaccinez votre population
au-delà de cela, il parlait aussi des passes droits que certains veulent que certains utilisent pour les vaccins. On se souvient peut-être très rapidement, pour le souligner, que le ministre argentin de la Santé a dû démissionner parce que justement il était intervenu pour faire vacciner un certain nombre de ses proches. en priorité.
Oui, absolument. Ça s'est passé même auparavant avec les masques, ça s'est passé avec les respirateurs, ça s'est passé avec d'autres. Il n'y a pas une politique commune au niveau des États qu'il y ait une ligne, comment dirais-je, qui soit rationnelle pour pouvoir accélérer la production du vaccin. Il y a aussi la question du prix. Il y a une question économique. Vous savez que, par exemple, le Pfizer, il est à 22 $ pièce. Et bon, certains, quel pays du Sud va se permettre d'avoir une vaccination à 22 €, si vous multipliez par le taux de change de ces pays-là?
C'est vrai qu'ils n'arriveraient jamais à vacciner toute la population.
Absolument, absolument.
Étant donné le coût de cette vaccination, même avec l'appui de l'initiative COVAX qui met à disposition de certains pays pauvres des vaccins.
Mais c'est limité, si vous voyez les chiffres de COVAX jusqu'à présent, c'est que des promesses. Il y a quelques millions de vaccins, mais ce n'est pas suffisant. Oui, vous parlez d'une population mondiale de 6 milliards. Donc, ce n'est pas...
Harold, votre vue du Gabon, hein, quel est votre avis sur ce débat concernant le passeport vaccinal qui, pour certains, pose aussi, au-delà du problème éthique, mais aussi un problème juridique? Imposer un passeport vaccinal pour certains est synonyme d'obligation de vacciner, de vaccination, ce qui n'est pas légal.
Au-delà même de l'obligation de vacciner, il y a d'abord le fait que tous les hommes naissent libres et égaux. Et donc, avec cette impossibilité pour certains pays d'obtenir le vaccin, ben on va se retrouver en fait avec une partie du globe qui peut voyager et une autre partie qui aura du mal à se déplacer et donc à s'émouvoir, au-delà même du fait d'imposer aux uns et aux autres de se faire vacciner, en fait.
D'accord. Voilà. Docteur Prudhomme, on voit aussi en Europe que, je le disais, on ne va pas de la même, la vitesse n'est pas la même. Et puis, il y a certains pays qui ont commencé déjà à exiger ce passeport vaccinal, d'autres de la communauté européenne, non, de l'Union européenne, non. Est-ce que si on imposait ce passeport-là, ça ne pourrait pas remettre en cause même le principe de libre circulation au niveau de l'Union européenne?
Écoutez, ce principe de libre circulation, il a déjà été mis à mal. Vous avez vu qu'il n'y a aucune coordination entre les différents pays européens, que chaque pays prend des mesures particulières, que certains pays ont fermé leurs frontières, donc il n'y a pas de libre circulation. C'est un échec total de l'Europe. Cette crise montre qu'il n'y a aucune solidarité en Europe, et c'est quand même grave parce que dans un espace qui se disait solidaire, c'est la foire d'empoigne, et chacun fait ce qu'il veut dans son pays. Et on a le même phénomène au niveau de l'ensemble de la planète, parce que vous voyez que, de la même manière, chaque pays essaye d'acheter des vaccins, de négocier des licences. Là, un de vos intervenants parlait effectivement des accords qui avaient été passés, soit avec les Chinois, soit avec les Russes, par certains pays africains. Donc, il n'y a aucune coordination, alors que, j'insiste, le virus ne connaît pas de frontières. Si on ne se coordonne pas pour qu'on ait un taux de vaccination qui soit le même, que ce soit au Gabon ou en France, nous n'arriverons pas.
Donc vous pensez qu'avant d'imposer un passeport vaccinal, il faut une justice vaccinale d'abord?
Mais oui, c'est un échec total du marché, du monde capitaliste. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise sanitaire. Il faut revenir aux valeurs de solidarité entre les pays, entre les citoyens, quel que soit leur niveau économique.
C'est ce que défend le président Emmanuel Macron.
Pardon ?
C'est ce qu'a défendu et défend le président Emmanuel Macron qui a tenu des propos avant le sommet du G7 selon lesquels il faudrait que les pays riches, occidentaux notamment, puissent donner mettre à disposition le vaccin pour les pays africains au risque de voir les Chinois occuper le terrain, disait-il.
Ah ben oui, vous voyez, vous terminez par ce qui fâche.
Je restitue ses propos.
M. Macron n'a pas eu un discours de santé publique et humaniste. Il a eu un discours de géopolitique et de concurrence entre les blocs. Voilà. Attention, les Chinois vont prendre la main en Afrique. Mais est-ce que c'est ça le problème? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant que médecin et en termes de santé publique, c'est qu'il y ait les mêmes droits pour un Africain au Gabon, au Mali ou au Burkina que pour un Estonien, un Tchèque ou un Français. parce que, comme je vous l'explique, le virus n'a pas de frontières, et si on ne vaccine pas l'ensemble de la planète au même rythme,
mais docteur Prudhomme,
des variants qui vont émerger.
Voilà, mais si on arrivait à court terme ou à moyen terme à vacciner l'ensemble des Français, par exemple, puisque votre préoccupation aussi, c'est l'insuffisance des vaccins, est-ce que vous seriez d'accord pour l'instauration d'un passeport vaccinal? Vous modifieriez votre point de vue?
Non, absolument pas. Je rejoins tout à fait les autres intervenants. Ce passeport vaccinal est source d'inégalités flagrantes. La question aujourd'hui, en termes de santé publique, c'est que de toute façon, il faudra bien à un moment donné qu'on puisse de nouveau voyager, se déplacer. Et pour cela, pour assurer la sécurité, ce n'est pas le passeport vaccinal, c'est le fait que l'on puisse vacciner massivement la population. Je reviens à ce que j'ai dit au départ. Que ce soit M. Macron qui propose 3 à 5% du volume des vaccins réservés aux pays du Nord pour les
du surplus du vaccin.
Que ça veut dire 3 à 5% des vaccins, ça ne veut rien dire. Il faut, moi j'insiste, en termes de santé publique, il faut que le taux de vaccination soit le même dans l'ensemble des pays de la planète, de manière progressive. C'est ça qui est important. Et effectivement, quand vous avez un laboratoire comme Pfizer qui se permet de vendre son vaccin à 22 euros ou AstraZeneca qui vend moins cher son vaccin à l'Union européenne qu'à certains pays africains, là j'ai entendu, 3,30 euros le prix du vaccin AstraZeneca en France, il vient de le vendre à 6 euros à l'Ouganda.
Mais est-ce que les pays, les États ont la marge de manœuvre pour imposer quoi que ce soit à ces groupes pharmaceutiques?
Mais oui, enfin, je veux dire, on a un dispositif de l'Organisation mondiale du commerce, et j'espère que c'est la nouvelle dirigeante qui est une africaine, va exiger qu'on applique cette directive qui date de 1994, qui est issue des luttes des populations pour obtenir les médicaments contre le VIH, contre le sida. Il faut qu'aujourd'hui, on utilise ce dispositif de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appelle la licence d'office. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est pas les bénéfices de Pfizer ou des autres laboratoires, c'est qu'on puisse produire massivement des vaccins à un coût qui permette de vacciner l'ensemble de la population de la planète.
Merci beaucoup. Harold Leka, le débat est assez vif en France entre partisans et opposants. Certaines autorités comme le ministre, le secrétaire d'État au tourisme et ici Jean-Baptiste Lemoine qui estime que c'est prématuré de parler du vaccin. Donc le problème c'est peut-être le timing. Mais quand on parle de ce débat, alors que vous, au Gabon, par exemple, vous avez encore un gros souci pour les tests Covid, est-ce que cela ne vous semble pas un peu incohérent?
Bon, c'est en déphasage avec le quotidien des Gabonais. Nous, on en est encore à la fiabilité même du test Covid, parce que récemment, il y a eu plusieurs tests qui ont révélé en fait des cas positifs, mais en fait, ces personnes-là étaient plutôt négatives, mais en fait ces personnes-là étaient positives à la Covid-19 après qu'ils aient fait un scanner, ils avaient des lésions au niveau du poumon en fait. Donc nous on est encore vraiment au niveau où même il y a un débat au niveau de la fiabilité des tests.
Et donc, du coup des tests, et là on parle maintenant de passeport vaccinal.
On n'en est pas encore là. Bien que le Gabon a quand même enregistré le 17 février dernier une commande du Sputnik V, le vaccin russe, voilà, qui est attendu au Gabon. Et je pense qu'il y a en local une organisation autour des structures qui devront recevoir le...
Peut-être un commentaire justement à propos de ce que Emmanuel Macron a dit. Si les Occidentaux ne donnent pas le vaccin à l'Afrique, les Russes et Chinois risquent d'occuper le terrain.
Ben c'est clair. On est dans une situation de détresse. Ce sont ceux qui nous apporteront de l'aide, ben, qui auront peut-être une priorité sur nos matières premières. Je pense que c'est un levier qui est à la disposition de l'Afrique et qu'il pourra brandir au moment voulu.
Merci beaucoup, Harold Leka. Nous allons encore marquer une toute petite pause, messieurs, et nous allons nous retrouver pour poursuivre notre débat ce soir consacré au passeport vaccinal qui fait l'objet de débats ici en France.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Le passeport vaccinal est-il envisageable en France pour le moment? C'est le thème de notre débat de ce soir avec le docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et porte-parole de la MUF, c'est l'Association des médecins urgentistes de France à Paris, Harold Deleka, directeur de publication de Gabon Media Time à Libreville au Gabon, et Yahya Zoubi, professeur de relations internationales et de management international. Il est aussi directeur de recherche en géopolitique à Keitch Business School. Et nous allons vous écoutez à nouveau, professeur Zoubir, vous n'êtes pas favorable, hein, quand je vous entends, à la mesure dont on parle, le passeport vaccinal, mais qui ne manque pas ses défenseurs, notamment ce député de l'UDI, Valérie Six, qui estime que ce passeport, il parle plutôt de passeport vert, pourrait permettre que les personnes vaccinées puissent se rendre dans les lieux de culture ou dans des restaurants. Elle estime aussi que cela pourrait inciter les Français à se faire vacciner. Il y a aussi cette étude IFOP qui a été réalisée par lemonde.fr en partenariat avec Le Parisien qui souligne qu'il y a quand même 62% des Français qui adhèrent à cette mesure de passeport vaccinal. Est-ce que ces arguments ne sont pas recevables?
Toute la population, encore une fois, si on veut concevoir d'une telle situation, c'est de dire, ok, tout le monde est vacciné, tout le monde a un passeport, tout le monde peut aller où il veut.
Mais si de prime abord on est contre, on ne va jamais arriver à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que tout le monde soit vacciné, afin qu'on puisse instaurer ce passeport ou
Vous créez encore une fois cette division entre ceux qui parviennent à se faire vacciner et ceux qui n'y parviennent pas. Ce n'est pas uniquement dans un état précis, c'est sur le niveau global, mondial, parce que le virus continuera à circuler et en imposant un passeport, ça veut dire que c'est une immigration contrôlée aussi. Vous allez avoir les étudiants qui veulent venir en France ou ailleurs, en Europe, et s'ils ont besoin d'un passeport, alors que dans leur pays, ils ne peuvent pas se faire vacciner, déjà vous discriminez contre ces gens-là, vous les empêchez de
pouvoir... Mais il y a dans certains pays comme la Côte d'Ivoire où on exige un carnet de vaccination contre la fièvre jaune. Personne n'entre en Côte d'Ivoire s'il ne dispose pas de ce carnet de vaccination. Sauf erreur de ma part, les personnes bénéficiaient de visas d'entrée aux États-Unis, ce qu'on appelle la green card. Il y a des tests de sida qui sont faits aux candidats retenus.
Oui, mais pas dans le sens inverse. Vous voyez déjà la discrimination. Un Américain, et je sais de quoi je parle, peut venir, peut aller où il veut, même s'il a le sida. Par contre, quelqu'un qui a le sida et qui veut se rendre aux États-Unis, il n'a pas le droit d'entrer aux États-Unis où il doit se
faire. Elle est peut-être injuste, comme vous le dites, mais elles sont appliquées, ces mesures. Pourquoi ne le ferait-on pas pour le virus Covid qui est plus contagieux?
Vous comparez le vaccin de la fièvre jaune. La fièvre jaune n'est pas... Il y a le docteur ici présent, docteur Prudhomme, il peut me corriger là-dessus. Mais c'est limité dans un endroit. C'est pas une maladie qui s'est transférée de par le monde, qui est inconnue, etc. Moi, personnellement, quand je vais en Afrique du Sud, on me demande mon carnet de vaccination pour la fièvre jaune. Tout le monde qui veut aller dans un pays qui exige ça peut se faire vacciner de la fièvre jaune. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce vaccin contre le Covid-19. Donc c'est tout à fait différent. Comme écoutez, et même quand on parle, vous avez soulevé tout à l'heure la question des 2 ou 3% qu'il faut donner. Ça a été la même chose pour le développement des pays du Sud. On dit il faut donner 1%, 2% du produit national brut pour ces pays en voie de développement, mais en même temps on les endette d'une autre manière, etc.
Merci.
Donc vous voyez
la charité.
Voilà où on en est.
Docteur Christophe Prudhomme, aujourd'hui, très brièvement, Quels sont, d'après vous, les préalables qui pourraient faire qu'on envisage réellement l'entrée en vigueur de ce fameux passeport vaccinal? Parce que le bilan que présente aujourd'hui Israël, qui a vacciné sa population à presque 50% et qui est en train de déconfiner, renforce la position de ceux qui et celles qui sont favorables à ce passeport.
Non, madame, la question n'est pas d'être favorable au passeport, la question est d'être favorable à la vaccination généralisée. Vous inversez la problématique, comme ça a été souligné. Le problème aujourd'hui, vous citez un vaccin contre la fièvre jaune, mais il n'y a aucun problème pour se faire vacciner contre la fièvre jaune avant de prendre l'avion, même si, voilà. Donc là, aujourd'hui, le problème, c'est que si vous voulez vous faire vacciner, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas de vaccin. Donc, pourquoi parler du passeport vaccinal alors qu'il n'y a pas de vaccin? Vous comprenez bien, c'est ça le problème.
Donc là, vous estimez que c'est trop tôt pour le moment, vous l'avez dit, il faut attendre quand tout le monde serait peut-être vacciné à travers le monde, l'exiger.
Une fois que tout le monde sera vacciné, il n'aura plus aucun intérêt. Voilà, enfin, je veux dire,
Il y a aussi, docteur Prudhomme, qu'on ne sait pas, même les scientifiques le disent, vous en êtes un, vous êtes médecin, on ne sait pas, il n'y a aucune garantie de ce que ce vaccin lui-même protège et sur combien de temps il protège les personnes vaccinées.
Il y a deux problèmes aujourd'hui, c'est que, voilà, ce qu'on peut considérer comme très positif, c'est la rapidité avec laquelle on a mis au point ce vaccin. Donc, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir pendant combien de temps on sera protégé. Mais la problématique aujourd'hui est autre que celle-là. C'est que on voit bien que l'apparition de variants rend ces vaccins de première génération moins efficaces et qu'il va falloir avoir des vaccins de deuxième génération. Donc la problématique aujourd'hui n'est pas de savoir si ce vaccin nous protège pendant deux ou trois ans. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il va falloir sûrement se faire revacciner chaque année comme on le fait pour la grippe saisonnière. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. D'où la nécessité, non pas de parler du vaccin, du passeport vaccinal, mais de comment chacun peut avoir accès au vaccin pour être protégé.
Voilà. Merci.
Ensuite, que l'on ait un carnet de vaccination, oui, mais un carnet de vaccination, ce n'est pas un passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, c'est une mesure policière pour limiter la circulation des populations dans un contexte où on n'a pas l'accès, on n'a pas le droit de se faire vacciner. Et le droit de se vacciner aujourd'hui n'existe pas puisqu'il n'y a pas de vaccin.
D'accord. Et en deux mots, Yahya Zoubir, les préalables, c'est la question que j'ai posée au docteur Prudhomme, bon, qui n'a pas précisément répondu. Quels seraient, d'après vous, quels sont les préalables si on devait, à court terme, parler de passeport vaccinal? Est-ce qu'il faudrait une consultation ou un référendum au niveau européen? Est-ce qu'il faudrait travailler avec l'OMS? Quels sont les préalables si on devait en parler?
Moi, le préalable, c'est de régler cette question de vaccination d'abord. Il faut accélérer la vaccination de toute la population, avoir accès à cette vaccination pour tout le monde, pas pour certaines catégories sociales.
Le docteur Prudhomme le disait, on sait que le vaccin aujourd'hui ne c'est pas une garantie, puisque il y a
encore beaucoup... Alors, quelle est la nécessité de parler du passeport vaccinal d'inconnu aujourd'hui? Et alors, pourquoi la nécessité de parler du passeport vaccinal quand on ne peut pas se faire vacciner?
D'accord. Voilà. Harold Leka, un mot sur ce passeport vaccinal. Si on devait l'exiger au Gabon, vous seriez d'accord en l'état des choses?
Moi, j'ai une inquiétude particulière par rapport à cette méthode-là, en fait. C'est-à-dire, on n'aura pas la possibilité de vacciner tous les pays en même temps. Ça veut dire qu'on va laisser d'autres pays développer des variants. Et en fait, le vaccin, on va aller vaccin sur vaccin sur vaccin, en fait. Donc,
vous pensez que c'est définitivement impossible de pouvoir vacciner tout le monde contre ces variants qui se signalent tous les jours et finalement, peut-être, il n'est pas possible aujourd'hui de parler de passeport vaccinal?
Bien sûr, puisqu'on va rentrer dans un cycle infernal, parce que les autres qui ne se sont pas fait vacciner, ils vont développer d'autres types de coronavirus et qui vont en fait toujours exposer ceux qui ont déjà été vaccinés pour la mutation précédente.
Merci Harold.
C'est un peu ça mon avis.
Oui, terminer, docteur Prudhomme, aujourd'hui vraiment, quel est selon vous la démarche que doivent suivre les autorités françaises. Et vous qui connaissez l'état d'esprit de l'opinion française aujourd'hui, quelle sera l'issue de cette consultation ?
Oui, je vous dis, enfin, l'issue de cette consultation, elle n'a aucun intérêt, cette consultation. C'est pour amuser le peuple et ne pas parler des vrais problèmes. Voilà, c'est du bas populisme pour que le gouvernement se dédouane du fait qu'il n'a créé aucun lit de réanimation supplémentaire depuis un an et que nous, hospitaliers, nous sommes en grande difficulté pour pouvoir prendre en charge correctement les malades dans un des pays les plus riches et les plus développés de la planète, ce qui est quand même un problème. Et deuxièmement, rien n'est fait pour accélérer la production et la mise à disposition des vaccins.
Merci.
Donc, pour moi, cette consultation n'a aucun intérêt. Et c'est vraiment se foutre, se moquer du peuple.
Merci beaucoup Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France à Paris. Merci à Yaria Zoubi, professeur de relations internationales et de management international. Et à vous Harold Leka, directeur de publication de Gabon Media Time à Libreville. Merci d'avoir été avec nous pour ce débat sur le passeport vaccinal en France.